Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez à 11h sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Bertille Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Leridon, Lucas Lazo, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Valentin Bobinet. Alors que l'été est là et que les longues semaines de confinement ont produit un fort besoin d'ailleurs, nous allons prendre la direction justement de l'ailleurs, du lointain, de l'évasion. Demain, nous parlerons consommation, consumérisme, pour voir si la crise sanitaire pourrait vraiment nous pousser vers de nouvelles habitudes. Mercredi, nous parlerons de séries télé, une solution pour toucher de l'ailleurs à très courte distance. Jeudi, nous verrons comment la France est devenue un exotisme littéraire. Mais pour commencer, penchons-nous sur ce qui incarnait jusqu'à présent, en tout cas, l'évasion, et qui se retrouve bien entravé par la pandémie de Covid-19, le tourisme bien sûr.
Il y aura une saison touristique cet été. On essaie de donner tous les moyens pour que les acteurs du tourisme qui ont été très touchés dans cette pandémie puissent rouvrir progressivement respectant les conditions sanitaires. Est-ce qu'elle sera pan-européenne? On l'espère. Est-ce qu'elle sera nationale? Certainement. Mais en tout cas, on fait en sorte que l'on puisse le plus vite possible retrouver une sorte, je dis bien une sorte, de normalité.
Nous sommes prêts à accueillir les touristes qui vont arriver sur la côte vénétienne. Cette semaine, nous avons travaillé pour adapter nos espaces, nos hébergements, nos terrains de camping à l'urgence sanitaire en cours. Nous avons prévu plus d'espace. Nous sommes capables de garantir la sécurité sanitaire des vacances à la mer. L'Espagne lèvera les contrôles aux frontières avec tous les États membres le 21 juin, ce qui coïncidera précisément avec la fin de l'état d'alerte. Dès lors, il n'y aura plus de quarantaine obligatoire pour les voyageurs entrant dans notre pays.
Voilà, cette voix qu'on entendait à l'instant, c'était celle du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, mais on entendait également un plagiste italien et également un commissaire européen, Thierry Breton, bien sûr. Le gouvernement espagnol, justement, qui vient de céder sous la pression du secteur du tourisme et qui vient d'annoncer l'ouverture anticipée de ses frontières pour le 21 juin au lieu du 1er juillet, comme c'était initialement prévu. D'autres pays avaient déjà pris ce chemin, comme la France, même si Paris avait décidé de ne pas rouvrir la frontière avec l'Espagne, notamment appliquant le principe de réciprocité. Partout en Europe, le déconfinement et l'approche de la saison estivale ont accentué les inquiétudes concernant le tourisme, un secteur essentiel déjà bien touché et pour lequel il s'agit de limiter la casse. Alors comment s'annonce cette bataille du tourisme? Quels sont les plans de soutien retenus? Avec quels effets escomptés? Comment repenser le secteur et le rendre plus durable aussi? Faut-il développer le tourisme domestique? Avec quels outils? Est-ce qu'il faut aussi tout simplement changer notre rapport à l'évasion? La crise sanitaire sonnera-t-elle le glas du tourisme de masse tel qu'on le connaissait jusqu'ici? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Jean-Pierre Lozato-Giottard. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'ancien directeur du pôle de projet touristique professionnel de l'Université Paris 3. Vous êtes expert auprès du Conseil de l'Europe et également vice-président de l'Association francophone des experts et scientifiques du tourisme. Avec nous également, Vincent Coiffet. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, maître de conférence à l'Université d'Angers et vous avez participé à un ouvrage collectif qui va bientôt paraître, il faudra attendre la fin de l'été, Les enjeux contemporains du tourisme, une approche géographique. C'est un ouvrage collectif qui va paraître aux presses universitaires de Rennes. D'abord, on va commencer par une question un peu général l'un et l'autre, et puis on va avoir le temps de développer un peu tout ça. Mais c'est vrai que depuis le début de la crise sanitaire, avec l'approche maintenant des vacances d'été, on entend cette petite musique autour du secteur du tourisme, avec cette idée selon laquelle ce Covid nous aurait peut-être fait basculer dans un nouveau régime, s'agissant de nos possibilités de mobilité, évidemment, et aussi de notre manière d'appréhender nos vacances, avec un transport aéronautique qui a été totalement paralysé, des frontières qui se sont fermées absolument d'un coup. Alors on pourrait se dire qu'effectivement les choses ont changé, et en même temps on sait bien que l'ancien monde peut revenir, et très vite, et en particulier s'agissant de la question du tourisme. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que le Covid constitue une vraie rupture dans l'histoire du secteur touristique, ou est-ce que vous nuanceriez un tout petit peu? On va commencer avec vous, Jean-Pierre Lozato-Giottard. Ça fait un moment que vous vous intéressez à cette question du tourisme, donc vous avez un peu une de la distance sur la question.
Oui, tout à fait. Et d'autant plus que les différents acteurs avec lesquels nous collaborons, qui sont à la fois bien sûr des chercheurs, mais aussi surtout des acteurs professionnels et institutionnels. Alors, ce que nous entendons, à partir d'ailleurs de l'association dont nous parlions tout à l'heure, l'association francophone, c'est que la priorité aujourd'hui des acteurs, je dirais, de terrain, c'est vraiment de repartir sur le plan économique. Ça, il est clair que leur grand souci, c'est ça. Mais l'histoire de la rupture, oui, c'est une rupture. Il est évident que depuis les années 50, le grand tourisme dit de masse s'est développé partout. D'ailleurs, le tourisme, me semble-t-il, a été certainement un précurseur de la mondialisation, si j'ose dire, puisque au-delà des frontières, on faisait déjà du tourisme. Mais cette rupture dont nous parlons est une rupture, c'est vrai, historique, en ce sens que tout s'arrête. Alors, c'est un stop. On a eu des problèmes avec le terrorisme par le passé. On a eu des épidémies, ça existait déjà, mais c'était très limité, quoi. Il n'y a pas eu vraiment de stop comme maintenant. Par exemple, les actes terroristes en Égypte ou ailleurs n'ont pas pour autant arrêté tous les vols dans le monde et tous les types de transports. Donc de ce côté-là, c'est vrai que c'est un peu inédit. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette situation va être durable ou est-ce qu'on va aller vers autre chose? Bon, ça va être le cœur du débat tout à l'heure, je suppose.
Exactement, on va évidemment se pencher essentiellement sur cette question, puis on va essayer peut-être d'améliorer un tout petit peu la liaison qui n'est pas parfaite, mais on vous entend quand même assez bien. Vincent Coiffet, même question. Jean-Pierre Lyotard dit oui, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'une rupture historique. Est-ce que quand justement les historiens demain se pencheront sur cette séquence qu'on vient de vivre et regarderont l'année 2019, ils nous diront oui, effectivement, cette année, ça a été le pic finalement historique, le pic touristique, et après cela, eh bien, il n'a fait que décroître. On s'est posé un peu la question sur le pétrole également. Est-ce qu'on va vivre un peu la même chose? On a vécu en 2019 le pic touristique, vous pensez, Vincent Coiffet?
Le pic touristique, c'est difficile à dire, hein. Je crois que l'histoire du tourisme nous montre d'abord, en effet, une dynamique assez exponentielle, notamment depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, hein, donc avec quelques ruptures. Je pense notamment à la crise, évidemment, 2008-2009, qui a constitué, alors pas un coup d'arrêt, mais qui a quand même été une sorte de bifurcation, ou en tout cas un tassement au niveau de cette expansion du tourisme à travers le monde, hein. Mais finalement, c'est resté un arrêt, je dirais, à nuancer, d'une part, hein, parce qu'il a été relativement peu... assez peu puissant finalement par rapport à ce que l'on connaît justement aujourd'hui. On sait que la décroissance du tourisme a été finalement inférieure à 1% en gros, hein. On est bien au-delà aujourd'hui. Lorsqu'on observe aussi le moment du SRAS, hein, vous savez, c'est peut-être cette pandémie là donc que l'on connaît aujourd'hui, finalement parfois on se pose la question est-ce qu'on peut la rapprocher de cette pandémie de 2003, mais là encore, hein, la décroissance du tourisme avait été très modeste. Là, l'OMT, par rapport aux données que nous pouvons obtenir et qui sont à relativiser évidemment, hein, puisque c'est très compliqué encore de produire des statistiques totalement fiable, mais l'OMT, bon, on parlait en mars d'une décroissance de 30%, hein, des déplacements touristiques à travers le monde. Puis en mai, on a entendu parler de 58%, et en fonction de l'agenda, et en quelque sorte du déconfinement et de son rythme, cette décroissance peut encore s'aggraver. Donc, rupture, oui. C'est une discussion qu'on pourra avoir évidemment encore tout à l'heure, mais je me méfie aussi des grandes révolutions, hein, c'est-à-dire que l'histoire du tourisme nous montre aussi une forte résilience de cette activité, en effet, comme l'a dit Jean-Pierre Lozato-Jotard tout à l'heure, hein, qui a été pas simplement un produit de la mondialisation, mais un producteur de la mondialisation. Et c'est ça que parfois on a du mal aussi à peut-être analyser avec suffisamment de sérieux.
Jean-Pierre Losato Giotta, on va revenir évidemment sur les scénarios possibles de sortie de crise, mais c'est vrai que ce tourisme, c'est pas un secteur comme un autre. D'abord parce que, vous l'avez dit déjà, l'un et l'autre, il a cette caractéristique d'avoir été à peu près en croissance constante depuis les années 50, et il y a quand même pas beaucoup de secteurs, c'est peut-être le seul d'ailleurs, qui a vécu cette histoire-là de croissance permanente ou quasi. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres, il a toujours été ce secteur porteur de l'économie mondiale. Quand l'économie mondiale se porte bien, eh bien le tourisme mondial se porte, lui, très bien. Et quand l'économie mondiale se porte moins bien, eh bien lui, il limite la casse. Il y a quelque chose d'absolument unique, inédit dans la vitalité du secteur touristique.
Oui, tout à fait. Et pour aller dans votre sens, il est vrai qu'on avait des prévisions qui disait que d'ici, en 2030, on passerait de 1,4 milliard, bon, le stade vaut ce qu'elle vaut, de touristes internationaux à 2 milliards. Bon, ce qui veut dire qu'en fait, la raison, me semble-t-il, pour laquelle le tourisme a toujours moins souffert habituellement, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'accès au tourisme reste encore limité sur le plan général. Je veux dire par là que sur les bientôt 8 milliards d'habitants, tous les habitants de la planète n'ont pas accès encore au tourisme sur le plan seulement économique. Ce qui veut dire que même si...
C'est même une minorité en réalité, pardon de vous couper, c'est une minorité. C'est un sixième.
Voilà, l'échec. C'est l'arrivée de nouveaux touristes, je pense aux Chinois par exemple, qui à un moment donné ont un petit peu, si j'ose dire, limité la casse. Ce qui veut dire que l'extension du tourisme va continuer, à mon avis. Je ne pas seulement à mon avis, je pense que Vincent sera d'accord. L'expansion du tourisme va continuer sûrement. Et la question qui se pose aujourd'hui, et qui me semble importante, c'est qu'on voit bien que pas de transport, pas de tourisme. Quoi. Ça, c'est une clé fondamentale. Quoi. On a beau dire, je veux aller à tel endroit, aller aux États-Unis, même près de chez soi, à la limite, pas de transport, pas de tourisme. Alors du coup, c'est vrai que ça, c'est un problème encore plus sérieux pour les destinations les plus liées au tourisme et les plus lointaines. Et nous travaillons actuellement, pour tout vous dire, sur les Seychelles et les Maldives, notamment avec les Seychelles, qui vraiment sont dans une situation très, très grave, parce que pour eux, le tourisme est de très très loin la première entrée de devise. Donc voilà un petit peu, dans l'immédiat, ce qu'on peut dire à ce sujet.
Vincent Coiffet, sur la Chine justement, parce que effectivement aujourd'hui le principal moteur du tourisme international, en tout cas on parlera tout à l'heure du tourisme domestique, parce que voilà une option qui permet de faire fi, en tout cas en partie, de la question du transport, mais le principal moteur du tourisme international, c'est la Chine. Les Chinois, c'est le plus gros contingent de touristes internationaux. Par ailleurs, ils sont au premier rang dans le classement en termes de dépenses. Et la Chine est évidemment à l'origine du virus, mais elle doit aujourd'hui faire face à une nouvelle vague avec la capitale Pékin qui a vu ses écoles et ses universités fermées. Donc il n'est absolument pas exclu que dans les semaines qui viennent, les touristes chinois ne puissent tout simplement pas sortir du pays pour aller visiter le reste du monde. Rien n'est impossible. Dans le cas, Vincent Coiffet, quelles seraient les conséquences d'une telle hypothèse ?
Oui, alors vous avez raison. Hein. Donc, dans les, on va dire, l'histoire récente du tourisme et son expansion, sa mondialisation, la grande puissance qui émerge depuis plusieurs dizaines d'années, hein, un peu de rappel quand même, en 1990, la Chine est 10e destination mondiale. Bon, aujourd'hui, elle est plutôt à la 3e place. Elle risque d'en gagner peut-être encore quelques-unes, même si aux 3 premières places, aux 4e places, évidemment, la concurrence est très forte. Mais oui, c'est la Chine, vous avez raison. Donc, c'est à peu près 10% hein, aujourd'hui de la population chinoise qui effectue des déplacements touristiques à l'international. Là encore, selon notamment les chiffres de l'OMT, hein, évidemment, dont les statistiques sont à nuancer dans leur mode de comptabilisation, évidemment. C'est quelque chose sur lequel on pourra éventuellement revenir. Mais oui, c'est 140 millions de départs hein, depuis la Chine. Donc, quand on dit 10% des Chinois qui circulent à travers le monde pour une expérience touristique, en effet, c'est une part faible de la population, mais ça concerne des volumes hein, très très importants, y compris en France notamment, puisque là, on a vu récemment, et c'est pas un hasard, le gouvernement, l'État français, hein, s'emparer aussi de cette question. La Chine est un enjeu stratégique très important. On facilite l'obtention de visas. Donc il y avait toute une politique de facilitation, je dirais, de la venue de ces touristes chinois. Et donc ce coup d'arrêt est une très mauvaise nouvelle, évidemment, puisque on parle, par exemple, de 4 milliards hein, d'euros qui reviendraient à la France grâce aux dépenses des touristes chinois. Donc on peut imaginer certains grands magasins parisiens aujourd'hui où la part relative des dépenses chinoises est très forte, vont connaître évidemment connaître un présent et un avenir difficile. C'est évident.
Je poursuis un tout petit peu avec vous et puis ensuite je passe la parole. Vous parliez de l'Organisation mondiale du tourisme. Elle a effectivement sorti déjà depuis le mois de mars un certain nombre de chiffres sur les effets possibles sur le secteur. Elle a également sorti plusieurs scénarios possibles de sortie de crise. Alors il y en a un qui correspond à un relatif retour à la normale dès le mois de juillet, donc dans une dizaine de jours. Il y en a un autre qui évoque un retour à la normale, là je mets aussi des guillemets, plutôt à partir de septembre. Et puis d'autres, le troisième scénario qui lui opte pour un assouplissement des restrictions de voyage seulement à la fin de l'année 2020. Alors évidemment vous n'êtes pas un expert scientifique spécialiste du coronavirus, mais enfin lequel de ces scénarios vous paraît le plus possible? Parce que dans l'affaire, en réalité, il n'est pas seulement question de santé. Hein. Il y a évidemment des pressions qui sont très fortes de la part du secteur, et donc le scénario de sortie de crise, il va aussi beaucoup dépendre de l'urgence à remettre en marche cette industrie qui est essentielle pour l'économie mondiale.
Oui. Effectivement, une organisation comme l'OMT peut prescrire, mais je dirais n'est pas un levier juridique en quelque sorte. Hein. Elle peut donner que des orientations, et c'est déjà beaucoup, puisque c'est aussi une institution, une organisation qui produit, génère un certain nombre de normes hein, qui sont plus ou moins mondialisées aujourd'hui, y compris d'ailleurs le tourisme durable. Mais en effet, là il y a un vrai problème, mais qui est difficile. La prospective est compliquée. Les scénarios sont peut-être pas multiples, mais quand même, il convient d'être un petit peu nuancé et prudent là-dessus. Mais effectivement, ce foyer là qui a réémergé à Pékin a constitué quand même aussi une sorte là de bifurcation dans cette progressive ouverture hein, de la Chine où les signaux commencent à être au vert, et puis là ce coup d'arrêt encore ou en tout cas une perte de confiance qui s'est installée du coup évidemment les États sont très prudents aussi c'est leur responsabilité aussi évidemment de réguler et d'orienter dans le bon sens, je dirais, les actions, hein, y compris dans le tourisme. Donc voilà, un secteur qui est en effet impacté, en tout cas informé, travaillé par toutes ces questions et ces décisions politiques. Hein. Mmh. Donc effectivement, au moment où, en effet, la Chine constitue encore une fois une place stratégique dans le secteur touristique, et ce coup d'arrêt-là est en effet une très mauvaise nouvelle.
Jean-Pierre Lozato Giottard, sur ces scénarios possibles de sortie de crise et en particulier sur cette question du tourisme chinois qui fait qu'évidemment qu'il y a une incidence sur l'évolution du secteur dans les semaines, dans les mois qui viennent.
Oui, alors sur la Chine, nous avons la chance d'avoir quelques liens directs avec nos amis chinois du tourisme, et en particulier avec les grands tours opérateurs, dont certains d'ailleurs, certains responsables ont été formés dans notre pôle, et en particulier, je salue ici notre ami Wang, qui est le directeur général de China Tour. Alors, ce qui se passe, c'est que l'OMT, comme le disait mon collègue, nous fournit des macro-statistiques. Et c'est vrai que ces macro-statistiques, elles sont ce qu'elles sont, parce que les moyens de l'OMT sont limités pour faire des études de terrain. Alors nous nous fierons seulement à ce que nous disent les acteurs de terrain. Sur les scénarii, avec les équipes parmi lesquelles j'interviens, en gros, on aurait deux scénarii. Le premier, ce serait le plus catastrophique. C'est-à-dire, la pandémie repart. Alors là, toutes les histoires de savoir si c'est septembre 2021, etc. on n'en sait rien du tout. Ça, ce serait le pire. Une pandémie qui se répète, et alors évidemment, le tourisme s'arrête encore plus longtemps. Mais le deuxième scénario qui nous semble évidemment plus logique, a priori, c'est de dire, admettons que fin 2020, début 2021, ça reparte à peu près. Je dis à peu près parce que lorsqu'on entend les compagnies de transport, notamment sur le plan aérien, presque toutes nous disent « Ah non, mais vous fatiguez pas, en octobre, il n'y aura pas tous les avions partout, hein, même s'il n'y a plus de pandémie. » Donc déjà, premier problème. Et si on arrive à avoir des transports et une pandémie qui marche et puis une pandémie qui s'arrête, alors à ce moment-là, on pourrait dire peut-être, oui, effectivement, soyons optimistes, l'année prochaine, en 2021, les choses vont repartir, les économies vont continuer à reprendre du souffle. Je vous signale par ailleurs que là, actuellement, le plus grand tour opérateur allemand, donc européen, TUI, a des problèmes actuellement. Vous voyez comme quoi, les taux de marge bénéficiaires sont assez limités en tourisme. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, admettons que le scénario positif fonctionne, qu'en 2021, on reparte, alors après, le problème, c'est on va repartir, mais comment et vers où? C'est ça la question suivante, si vous voulez.
Alors justement, Vincent Coiffet, vers où? Il y a effectivement cette condition qui est importante, qui est celle du transport. Les compagnies aériennes nous disent que d'ici quelques mois, il n'y aura pas tous des vols pour partout. Concrètement, quel effet ça va avoir tout ça? Parce que il y a quand même des pays là dans le paysage mondial qui sortent un peu leur épingle du jeu du point de vue sanitaire, j'entends. Si on regarde sur l'Europe, par exemple, le Portugal a relativement bien géré cette crise sanitaire. Est-ce que il faut s'attendre à, d'une certaine manière, l'émergence d'une nouvelle forme de tourisme avec, au fond, des bulles de tourisme, c'est-à-dire des endroits où le tourisme se développerait à la faveur de cette crise sanitaire, parce que précisément ces pays en question ont bien géré la crise sanitaire. Est-ce que demain le Portugal va prendre des parts de marché à des pays qui ont été plus touchés, comme l'Espagne, l'Italie ou la France, qui sont quand même traditionnellement en Europe la locomotive en matière de tourisme dans l'Union européenne?
Oui, alors une question effectivement difficile encore une fois à répondre, mais en tout cas... je crois que donc, alors vous parliez du Portugal, en effet, qui a plutôt, en tout cas d'après les informations dont on dispose, peut-être mieux géré cette crise, mais qui ne fait pas forcément partie non plus des premières destinations touristiques mondiales. Hein, donc, je rappelle quand même que l'Europe compte pour à peu près la moitié des arrivées touristiques dans le monde, que la France, l'Espagne, l'Italie constituent évidemment parmi les premières destinations mondiales. Est-ce que ce coronavirus va redistribuer les cartes? Difficile de le dire. Ce qui quand même est certain, c'est que ces destinations-là vont devoir jouer sur la confiance, c'est-à-dire vont aussi sans doute réfléchir, là peut-être en termes de marketing territorial comme l'on dit, sur justement des destinations refuges. Traditionnellement, on avait vu en cas de crise, notamment après les attentats, mais c'est une crise d'une autre nature que celle que nous connaissons, même si ce paramètre-là n'a pas disparu. Par exemple, ce sont les îles. Et actuellement, je dirais à l'échelle de la France, se pose justement la question, par exemple, des dom-toms. On sait que alors, les raisons sans doute sont à chercher, mais peut-être des faiblesses au niveau du système sanitaire. En tout cas, je dirais l'accueil des touristes dans les dom-toms n'est pas le même aujourd'hui qu'en métropole. Hein. Donc, alors est-ce que ça va par exemple bénéficier à la Corse, vous voyez, qui aujourd'hui justement pourrait constituer une destination refuge en tant qu'espace insulaire? Quid des destinations Caraïbes qui traditionnellement là aussi justement, c'est pour ça que je parlais aussi des dom-toms, et notamment on pense ici aux Antilles, comment justement ces destinations-là vont-elles passer cette crise, parce que justement le déconfinement ne se produit pas au même rythme. Mmh. Et les protocoles sanitaires, évidemment, sont très différenciés à l'échelle du monde, y compris au sein, je dirais, d'un même territoire, hein, et de ses extensions. Hein. Donc là, du coup, oui, la question, c'est en effet comment les destinations vont-elles jouer une nouvelle carte, hein, et comment cet espace mondialisé du tourisme va-t-il se restructurer. Il faut être prudent, je dirais, hein, sur cette question-là.
Jean-Pierre Lozato-Giottard, est-ce que vous êtes aussi également prudent? Alors, peut-être à la fois sur la question des espaces insulaires qu'évoquait Vincent Coueffet, mais aussi sur le cas du Portugal, qui est intéressant parce qu'effectivement, c'est un pays qui a été relativement épargné par la crise. Je dis relativement, c'est à peu près 1500 décès quand même. Mais il se trouve que le Portugal a récemment décroché un label Safe Travels, qui est décerné par le World Travel and Tourism Council, qui est une association qui regroupe des dizaines d'entreprises du secteur du tourisme dans le monde. Est-ce que, par exemple, ce type de label peut permettre au Portugal de tirer son épingle du jeu et d'attirer des touristes qui traditionnellement vont, je parlais tout à l'heure de l'Espagne, l'Italie et la France ou encore la Grèce, est-ce que ça peut être un bénéfice pour ce pays d'une certaine manière?
Oui, le cas du Portugal est effectivement intéressant parce qu'on nous dit, voilà, le Portugal, il a été moins touché et ce nouveau label, si j'ose dire, sanitaire, peut être un plus. Mais ce qu'on constate avec les acteurs professionnels, c'est que certes, le Portugal semble, je dis bien semble, en profiter un petit peu, mais peut-être un peu, comme le disait mon collègue, pas autant qu'on pourrait le croire. Alors du coup, c'est vrai que c'est un cas un peu particulier. En même temps, il faut savoir que les conditions, je dirais, d'accueil, d'hébergement et autres du Portugal sont limitées. Donc on ne pourra pas balancer des dizaines de millions de touristes d'un coup au Portugal. Il y a aussi ce phénomène. Et d'autant plus que l'Espagne, avec laquelle d'ailleurs nous collaborons, soit dit au passage, l'Espagne a décidé de réouvrir tout de suite, hein, parce qu'il y a urgence économique. Et l'Espagne, évidemment, a des capacités d'accueil beaucoup plus importantes. Mais je crois qu'effectivement, comme on le disait, il faut une certaine prudence. Ce qui est à peu près établi, c'est que plus on va vers des destinations lointaines, notamment les Blomtom, les îles du Pacifique et autres, là, c'est compliqué parce que non seulement il y a la pandémie, alors est-ce que la pandémie a un retard? Et effectivement, en tant qu'il y a pandémie, on ne verra pas beaucoup de touristes enthousiastes d'aller dans ces destinations. Mais il y a le problème du transport. Car en effet, beaucoup d'îles dans le monde touristique, pour l'instant, n'ont pratiquement pas de transport aérien. Mais je voudrais faire un petit rappel à propos des îles dans le monde. C'est que quand on regarde le nombre d'îles qu'il y a, je ne vais pas détailler tout le nombre d'îles qu'il y a dans le monde, mais il faut savoir que, par exemple, sur les milliers d'îles, dizaines de milliers d'îles qu'il y a dans le monde, vous avez une vingtaine d'îles et d'archipels qui font 80% des destinations touristiques insulaires. C'est très concentré. Donc, vous voyez, là, la question qu'on pourra peut-être un jour se poser, est-ce qu'on va continuer à avoir toujours, après la pandémie, si tout va bien, est-ce qu'on va repartir vers des concentrations touristiques comme on les a connus jusqu'à présent, ou est-ce qu'au contraire, on va diversifier, et puis est-ce que finalement, on ne va pas dire, on va avoir peut-être des tendances nouvelles, alors je ne vais pas les présenter maintenant, on va en parler tout à l'heure, je suppose, il y aura peut-être des tendances nouvelles. En tout cas, pour l'heure, il y a prudence générale.
On va en parler effectivement tout à l'heure de ces tendances nouvelles, ce tourisme local, tourisme durable dont on parle beaucoup, mais peut-être un dernier mot, Jean-Pierre Lozato-Giottard, sur la question des plans de relance, parce qu'on a vu un peu partout en Europe des gouvernements annoncer des plans de soutien, des plans de relance au tourisme. On a vu également un commissaire européen au marché intérieur, à savoir Thierry Breton, plaider pour un plan Marshall en faveur du tourisme. Est-ce que là, d'abord, il vous semble qu'il y a des pays qui ont montré une certaine efficacité dans les dispositifs de soutien qu'ils ont proposés? Et est-ce qu'il vous semble enfin qu'on aurait besoin, au niveau de l'Union européenne, d'avoir un plan commun, un plan coordonné pour avoir un soutien efficace?
Votre question est particulièrement intéressante. Parce que lorsqu'on regarde les plans de soutien au secteur tourisme, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, bon, pays qu'on connaît bien, on voit que ce sont des plans de soutien en réalité qui sont intégrés à des plans de soutien plus généraux. Je veux dire par là que on soutient qui en tourisme? On soutient surtout les services, c'est-à-dire le monde hôtelier, des littoraux, mais il n'y a pas un plan de soutien, par exemple, très important pour tous les tours opérateurs, parce que les tours opérateurs ont de sérieux problèmes. Il n'y a pas un plan de soutien pour tous les petits artisans, si j'ose dire, du tourisme. Donc, c'est assez compliqué, parce qu'il nous arrive souvent de dire que le tourisme, c'est certainement le secteur le plus complexe que nous connaissons. Vous avez tout dans le tourisme, vous avez tout. Vous avez l'environnement, vous avez l'économie, vous avez la culture, vous avez un tas de choses. Vous avez des services, vous avez des transports, il y a tout, quoi. C'est très compliqué. Et les plans de soutien que nous voyons aujourd'hui, tant mieux. C'est surtout pour les gens qui sont sur le terrain, et ce sont des plans de soutien pour des actifs. Mais ensuite, le problème de l'Europe, alors voilà.
Alors Jean-Pierre Lozato-Giottard, on ne vous entend plus, on va essayer d'améliorer la ligne. Vincent Coueffé, peut-être même question sur la question des plans de soutien, à la fois peut-être regarder ce qui a été fait ailleurs et voir l'efficacité des différents plans ou la difficulté à être efficace, parce qu'on l'entend effectivement, il y a une grande diversité d'acteurs derrière ce qu'on appelle le secteur du tourisme, et la nécessité ou non de coordonner tout ça au niveau européen. Vincent Coueffé.
Oui, alors effectivement, le tourisme est un enjeu, je dirais, très ancien, hein, on va dire, de l'intégration européenne, de l'unification européenne. Il faut aussi rappeler peut-être que justement les grands réseaux tissés depuis le Grand Tour, donc ont constitué aussi, je dirais, les premières trames, hein, de cet espace européen. Donc sur la longue durée, je dirais, le tourisme a constitué une sorte de ressource au fond, hein, de cet espace européen, un peu discret, souvent un petit peu marginalisé, je dirais, par l'analyse académique, mais là c'est intéressant, le tourisme est véritablement un enjeu, et on le voit là depuis quelques semaines et surtout quelques mois, et dans cette phase notamment de déconfinement, où finalement on s'aperçoit certes, on pourra toujours dire que ce déconfinement se fait en ordre dispersé, mais il n'empêche, il y a quand même une sorte de convergence, hein, finalement, là, depuis le 15 juin, on voit quand même un grand nombre de pays européens décider ce déconfinement.
Oui, mais sans aucune coordination, on est dans le désordre le plus total.
C'est ce que je disais, c'est un petit peu un ordre dispersé.
Vous êtes gentil. C'est une forme de chaos, quand même, disons-le.
Chaos, oui. Alors, encore une fois, il faut bien comprendre la complexité de ce système touristique, qui est en effet transversal à différentes dimensions qui constituent nos sociétés, l'environnement, le transport, on l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a une vraie difficulté à en effet coordonner toutes ces actions. Ça se voit aussi justement dans les prises de position que l'on trouve à travers les différents pays européens là depuis quelques jours notamment, hein, sur ce rythme de déconfinement, sur les modalités à mettre en place pour déconfiner, et puis demain évidemment et dès aujourd'hui d'ailleurs sur ce fameux plan Marshall. Alors bon, en France on a quand même un certain nombre d'outils qui ont été mis en place là, et qui sont dont nous avons parlé, notamment la Caisse des dépôts et consignations, quand même, qui est un établissement qui va jouer sans doute un rôle important. Y a-t-il l'équivalent dans d'autres États ou d'autres outils pour accompagner financièrement ce besoin là de à la fois d'accompagner à travers des prêts garantis, donc on l'a vu par l'État, hein, mais aussi sans doute pour en effet pour accompagner ces investissements dans les prochains mois, les prochaines années.
On va retrouver Jean-Pierre Lozato-Giottard, et peut-être sur une question particulière que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir celle du tourisme durable. Je mets évidemment toute une série de guillemets à l'expression, parce que on parle, et depuis très longtemps, de la question de l'impact écologique du tourisme de masse, et pas seulement depuis la crise sanitaire. Et en même temps, on ne change pas de modèle du jour au lendemain, Jean-Pierre Lozato-Giottard. Est-ce que vous pensez que cette crise du Covid pourrait réellement accélérer la transformation qui a déjà lieu depuis longtemps, hein. Ça existe, le tourisme durable, et depuis longtemps. Mais jusqu'où est-ce que vous pensez que ça peut accélérer ce mouvement-là?
En effet, c'est un des aspects sûrement de ce qu'on pourrait appeler le monde d'après, hein, n'est-ce pas ? Et avant de vous répondre directement, je voudrais simplement ajouter ceci par rapport à ce qu'on a dit précédemment. C'est que lorsqu'on parle de plan de soutien européen pour le tourisme, c'est très délicat parce que, figurez-vous, que parmi toutes les activités que le Conseil de l'Europe gère, le seul secteur tourisme reste au niveau des États. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commission pour le tourisme, je le dis au passage. Mmh. Alors, pour revenir au durable, c'est un terme évidemment qui n'est pas très bon. Je pense que la plupart de tous mes collègues partagent cette opinion, puisque ça ne correspond pas tout à fait à ce que les anglo-saxons appellent « sustainable hein. ». Mais durable, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que on aimerait que les choses continuent. Est-ce que ça veut dire ça ? D'abord, est-ce que c'est une question simplement, l'économie va continuer, c'est parfait, ça va marcher ? Est-ce que durable, c'est tout simplement respecter la nature ? Enfin, il y a plusieurs aspects. Là aussi, c'est assez compliqué. Et on peut dire que il y a peut-être un point capital dans le durable, c'est que si l'on veut que ça dure, eh ben, il faudra quand même qu'on respecte au maximum le territoire, quoi. Finalement, la clé du durable, que ce soit pour l'économie touristique, pour les voyages et autres, ça reste la matière première. Et je rappelle que la matière première, c'est à la fois le patrimoine, qui soit un patrimoine culturel, c'est donc aussi un patrimoine environnemental, et que tout va dépendre de ça.
Et on voit déjà... Et donc ça veut dire plus de régulation ?
Oui, plus de régulation, ça c'est clair. Parce que moi, je pense que, je suis aussi par d'autres, bien entendu, je pense que tout a une limite. Il y a une limite partout, quoi. Et je prends un exemple. Le GR20, vous savez, le chemin de grande randonnée en Corse, le GR20, qui est assez connu, il y a 20-25 ans, on avait quelques centaines de personnes qui passaient. Maintenant, on a des milliers de personnes qui passent, et je peux vous dire que il a fallu, il y a quelques années d'ailleurs, à cause de l'augmentation en été du passage des touristes, il a fallu mettre des refuges, il a fallu penser à enlever les déchets, c'était assez compliqué. Mmh. Alors, est-ce qu'on va vers quelque chose qui va se limiter ? Non, non.
On vous mais a perdu, Jean-Pierre, nous êtes au Giotard. On n'arrive plus à vous entendre, on ne vous entend plus, mais on va vous retrouver. Ça tombe bien, on va faire une petite pause et on va s'intéresser à la question du Maroc, où on essaye de développer un maximum le tourisme domestique, même si c'est assez compliqué. On est avec vous, Jean-Pierre Lozato Giotard, et vous, Vincent Coueffé, dans cette semaine que l'on consacre aux besoins d'évasion, aujourd'hui du Vietnam au Maroc. Voyageurs, gardez vos distances. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et depuis plusieurs années maintenant, le nombre de visiteurs internationaux au Maroc augmente. On en avait 13 millions pour l'année 2019. On a donc cette crise du coronavirus avec des mesures du confinement et la fermeture évidemment des frontières qui ont déjà eu des effets délétères sur le secteur. Et face à ce constat, eh bien, le gouvernement mise sur un tourisme domestique. Comment fait-il ? Avec quels obstacles ? Bonjour Aziz Amioui.
Bonjour monsieur.
Amioui, pardonnez-moi, j'ai écorché votre nom. Vous êtes professeur de management du tourisme à l'École nationale de commerce et de gestion de l'université de Fès. Alors le pays est plongé, je le disais, dans le confinement depuis maintenant mi-mars. Et le déconfinement, lui, il tarde un peu. On a un royaume qui est divisé en deux, avec d'un côté la zone 1, les zones rurales et les petites villes en gros, qui commencent un peu à reprendre une activité normale. Et puis la zone 2, donc les grandes villes, Rabat, Casablanca, Marrakech, où là, les déplacements restent soumis à des autorisations exceptionnelles. Pendant longtemps, cette précaution du confinement n'a pas beaucoup été discutée. Et puis là, on sent quand même une petite musique dans le pays qui disent qu'il y a urgence à déconfiner parce que l'impact de tout cela sur l'économie, et en particulier sur le secteur touristique qui est très important dans le pays, commence à être très important. Vous êtes d'accord, vous, il faut absolument reprendre cette activité et en particulier permettre au tourisme de revenir, Aziz Amioui ?
Oui, monsieur. Alors, il y a de nouveau, je crois, donc à propos du déconfinement. Donc, à partir du mercredi 24 juin à minuit, presque toutes les régions et toutes les villes du Maroc seront déconfinées. À part, donc, pratiquement toutes les villes seront classées dans la zone numéro 1. Donc, à part Kinétra, Tanger, Larache et Marrakech. Donc,
et est-ce que les frontières vont être ouvertes ? Les touristes étrangers vont pouvoir venir ?
Non. Non, c'est interne. Donc, je parle de ce qui est interne. Donc, au niveau interne, il va y avoir un déconfinement à partir du mercredi 24 juin à minuit. Donc pratiquement toutes les villes seront classées dans la zone numéro 1, reprise presque normale de l'activité, sauf dans 4 villes, à savoir Larache, Kinetra, Marrakech. Donc, c'est tout, hein, c'est ça. Donc, à propos du tourisme international, donc, c'est encore prématuré. Donc, pas question, donc, pour le moment, d'ouvrir les frontières pour les touristes internationaux. Donc,
en revanche, du côté de l'exécutif marocain, on a déjà fait quelques annonces et mis en place un certain nombre de choses pour essayer de développer le tourisme intérieur. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu en quelques mots les mesures qui ont été mises en place pour essayer de développer ce tourisme intérieur, ce tourisme domestique.
Alors il faut dire que donc malgré les efforts vraiment déployés par le gouvernement depuis le début des années 2000 dans le cadre de ce qu'on appelle au Maroc la stratégie du développement touristique à l'horizon 2010 et après la stratégie du développement touristique à l'horizon 2020, il faut dire que le tourisme domestique intérieur a toujours été le parent pauvre de la politique touristique du Maroc. Donc il y a un peu un certain décalage entre le déclarer, ce qui est écrit au niveau des stratégies, et le réaliser. Donc aujourd'hui, oui, il est vrai, donc on parle au niveau de l'exécutif, on parle au niveau du ministère tourisme, de la reprise de l'activité touristique donc via les touristes domestiques nationaux, mais il faut dire que ça a toujours été le cas. En effet, à chaque crise, donc on se tourne, on cherche un palliatif dans le tourisme interne. Donc, en 2003, suite aux attentats qu'a connus Casablanca, donc c'était la première édition de ce qu'on a appelé Konouz Biladi, donc ça veut dire le trésor de mon pays, donc politique de promotion orientée touriste interne afin de promouvoir l'activité touristique et donc de pallier, de remédier à l'insuffisance des touristes internationaux. Alors après, c'était en 2009 également, donc deuxième vague, si vous voulez, de ce qu'on a appelé également Konouz Biladi. Donc c'était dans le contexte de la crise financière internationale qui a éclaté aux États-Unis. Et récemment encore, en 2013, donc c'était à cause de l'incident qu'a connu Marrakech. Donc c'était donc attentat à la bombe actionnée à distance et qui a visé un café situé à Marrakech, donc exactement le café Argana. Donc c'était également la troisième édition de Konouz Biladi. Donc c'est dire que à chaque fois qu'il y a vraiment une crise qui impacte le tourisme international, donc le Maroc se tourne vers les nationaux afin de d'atténuer, donc de remédier à l'insuffisance. Et aujourd'hui, donc c'est le cas également. Donc aujourd'hui,
ça marche, Azid Amioui. Est-ce que effectivement on arrive à le développer? Alors je sais bien que on est très loin de rattraper le tourisme international qui reste très largement majoritaire. Mais est-ce qu'on arrive quand même à le développer un petit peu? Et comment est-ce qu'on s'y prend?
Alors tout à fait. Donc si je reviens à l'histoire, donc il est vrai. Donc en 2003, la campagne promotionnelle a donné en quelque sorte ses fruits. Pourquoi? Parce que il est vrai. Donc les nuitées enregistrées par les nationaux ont augmenté. Donc de 5,8 entre 2003 et 2004. Et il en va de même. Donc le même constat peut être avancé à propos des deux autres campagnes, à savoir celle de 2009, qu'on a dit la deuxième version. Et également, Konouz Biladi, troisième version, donc celle de 2013. Donc, il est vrai, donc on constate vraiment une reprise, une montée, une croissance des nuitées réalisées par les nationaux. Mais, malheureusement, dès la reprise de l'activité, donc on constate également une chute. D'accord? Alors, dire est-ce que vraiment le tourisme national, est-ce que le tourisme domestique vraiment compense les pertes en termes de manque à gagner du tourisme international? Non, c'est non, carrément non. Pourquoi? Parce que le tourisme international a quelque chose que n'a pas le tourisme interne, à savoir les devises. Donc les devises, d'accord? Donc le tourisme international donc rapporte les devises. Par contre, donc quand on mise sur le tourisme domestique interne, donc c'est uniquement la monnaie nationale. Donc dire que ça compense, donc ça compense pas. Mais comme je viens de vous le dire, donc si je me réfère aux données passées, donc il est vrai, donc on a constaté vraiment une augmentation notable donc des nuitées réalisées par les résidents marocains. Donc je peux même vous avancer quelques chiffres. Donc par exemple, j'avance les chiffres sur la dernière campagne, à savoir celle de 2013. Alors le nombre d'nuitées enregistrées par les résidents a augmenté de 4,86 entre 2011 et 2013. Et aujourd'hui, donc je vous donne un chiffre récent, aujourd'hui, les nuitées réalisées par les résidents, donc vraiment pèse pour quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il avoisine aujourd'hui les 22% des totales d'unités enregistrées par le Maroc.
Donc ça a quand même augmenté. Vous restez avec nous, Aziz Amioui. Je voudrais peut-être entendre nos invités sur ce cas-là. Vous avez dit quelque chose d'important, à savoir qu'on considère en réalité que ce tourisme, même si on l'a un petit peu développé, il rapporte moins que le tourisme international. Quand on parle du développement du tourisme, disons, local, domestique, c'est toujours l'argument que l'on avance, Vincent Coueffé, c'est-à-dire cette idée selon laquelle, eh bien, le principal obstacle à son développement, c'est qu'il rapporterait moins que le tourisme international. Est-ce que cette idée-là est toujours vraie ? Est-ce qu'il y a des faits qui nous montrent que, eh bien, on peut parfois dépasser cet obstacle.
Alors là, évidemment, les cas sont très différenciés à l'échelle du monde, mais il faut rappeler ce fait, hein, puisque il s'agit bien d'un fait. On estime que les circulations, les déplacements touristiques domestiques internes, donc aux États. Sont à peu près 4 fois supérieures aux circulations internationales. Hein, donc là aussi, la focale placée sur l'échelle mondiale, bien sûr, elle est fondamentale, mais il ne faut jamais oublier aussi ces déplacements internes qui constituent aujourd'hui, là encore, hein, des enjeux très importants. On le voit évidemment pour les États continentaux, comme on dit parfois, la Chine et l'Inde, où plusieurs centaines de millions de déplacements internes peuvent être comptabilisés, même si là encore les outils de mesure manquent d'unification et d'harmonisation à l'échelle du monde. Je dirais c'est un fait objectif en quelque sorte. La consommation touristique en France vient aussi beaucoup des Français eux-mêmes. Là aussi, c'est un rappel en quelque sorte. Et effectivement, en temps de pandémie, évidemment, il devient aussi intéressant, ou il peut être intéressant en effet, de revaloriser en quelque sorte, si besoin, ces déplacements internes. Hein, donc, et de ce point de vue-là, évidemment.
Comment on fait ?
Alors, comment on fait là les outils, il n'y a encore pas de magie en quelque sorte. Je crois qu'il y a évidemment depuis encore, si on se réfère à l'histoire du tourisme, il y a quand même un vrai enjeu autour de l'accessibilité à ce tourisme. Rappelons en France que les taux de départ sont autour de 70%, donc il y a encore beaucoup de marge de manœuvre pour améliorer aussi, je dirais, l'accessibilité au tourisme, et donc potentiellement, là aussi, dégager de nouvelles marges en termes de profit et de consommation touristique. Mmh. Donc, c'est un paramètre parmi beaucoup d'autres, évidemment, hein, mais l'accessibilité au tourisme, je dirais le droit au tourisme, hein, il y a un droit à la mobilité, et il y a sans doute aussi un droit au tourisme. Tout à l'heure, vous avez rappelé, ça reste encore un phénomène relativement minoritaire, même si, quand même, ce que l'on observe, c'est son expansion quasi continue depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Donc voilà, il y a plusieurs leviers sans doute sur lesquels activer en quelque sorte, hein, pour développer encore un peu plus peut-être le tourisme domestique. Mmh. Mais là encore, il faut faire très attention aussi sur ce repli, hein, sur l'échelle nationale et sur le repli de manière plus générale. Hein, on a quand même entendu récemment il y a eu des sorties. Qui font quand même qui posent problème, hein, en termes éthiques, hein. Il y aurait des vertus dissuasives. On entend quand même de quasi slogans aujourd'hui, hein, les vertus dissuasives du virus, hein, qui permettraient justement finalement à ce tourisme dit de masse, hein, de s'éclipser, de rebrousser en quelque sorte, et donc de nous tenir à distance de touristes sont considérés depuis, je dirais, l'invention du tourisme comme des hordes invasives, etc. Donc, il faut faire aussi très attention et, en effet, réfléchir à ces articulations d'échelle, en quelque sorte. Hein. Du local au mondial. Et je crois que ça s'articule plus que ça ne... plus qu'elles sont exclusives l'une de l'autre, si vous voulez.
Ouais, on entend le géographe avec cette articulation entre le local et le mondial. Merci en tout cas Aziz Amioui qui était avec nous par téléphone. On va poursuivre nos pérégrinations autour du monde pour parler de ce tourisme et on va prendre la direction tout de suite du Vietnam.
Je suis très heureuse et soulagée de partir en voyage. Les voyagistes ont lancé des programmes promotionnels pour encourager les gens à voyager.
Je trouve que l'air sur cette île est très pur et que les gens sont très hospitaliers. Actuellement, les infrastructures de Phu Quoc sont de bonne qualité et il est nécessaire d'avoir des stratégies de développement à long terme. J'espère que Phu Quoc recevra des conseils du gouvernement en matière de planification l'année prochaine afin qu'elle se développe durablement.
Et visiblement, des efforts, il y en a du côté de l'exécutif vietnamien pour essayer de développer ce tourisme domestique qui existe déjà bel et bien. On va en parler avec une nouvelle invitée, Emmanuelle Pével. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, maîtresse de conférence à l'Université de Bretagne occidentale. Vous avez écrit un ouvrage intitulé « L'invitation au voyage géographique postcolonial du tourisme domestique au Vietnam ». Donc vous êtes intéressé en particulier à cette question du tourisme au Vietnam. Et il semble que le pays est un peu, en tout cas en avance, je ne sais pas, mais en tout cas est parvenu, contrairement à d'autres, on parlait du Maroc à l'instant, à développer un tourisme domestique jusqu'ici. Comment a-t-il fait ?
Oui, tout à fait. Alors, le tourisme domestique au Vietnam, il a d'abord été développé dans une perspective socialiste. Donc, il n'était pas du tout considéré comme un secteur économique jusqu'en 86. C'était plutôt une récompense qui était accordée aux ouvriers, aux agriculteurs méritants dont on finançait les voyages. Alors, c'était des flux assez peu importants, mais qui ont perduré, qui perdurent encore aujourd'hui, puisque le Vietnam est toujours communiste par les syndicats, les organisations de masse. Et qui peut, pour certaines catégories de population, je pense aux retraités, aux personnes de zones rurales, constituer un levier important de départ. Mmh. Et puis, le deuxième temps du développement du tourisme domestique au Vietnam, c'est celui du décollage économique. Après les réformes de 86 du Doi Moi, il y a une vraie classe moyenne aujourd'hui qui a émergé au Vietnam et qui a donc les moyens et un peu plus le temps aussi de partir voyager essentiellement dans le pays. Mmh. Puisque même s'il y a quelques Vietnamiens qui partent à l'étranger, et même de plus en plus, ça représente à peu près en pourcentage 1/11 de la population aujourd'hui, donc assez peu.
Est-ce que ça peut suffire pour remplacer les touristes internationaux? J'ai regardé les chiffres. Le Vietnam, l'année dernière, a accueilli 18 millions de visiteurs étrangers. Presque ça. 6 millions de Chinois, 4 millions de Sud-Coréens. Et puis ensuite, on a des Russes, des Japonais, des Malaisiens, en moins grand nombre, tous moins d'un million. Mais est-ce que ce tourisme domestique peut suffire pour remplacer tous ces touristes étrangers?
Alors 18 millions de touristes d'arrivées de touristes internationaux, mais dans le même temps 85 millions de visites domestiques, c'est-à-dire un rapport de il faut quasiment multiplier le chiffre par 5, un peu moins de 5. Alors la réponse que je vais vous faire, en fait, elle va être aussi celle d'une géographe. Le flux à l'échelle nationale montre clairement que le Vietnam n'est pas dépendant du tourisme international et du tourisme en général, mais du tourisme international en particulier. À l'échelle locale, par contre, effectivement, il y a des destinations qui se sont spécialisées dans l'accueil de touristes internationaux et pour qui aujourd'hui la situation est préoccupante. Je pense par exemple à la station balnéaire de Nha Trang, dans le centre-sud du pays, qui a beaucoup développé ses relations avec la Chine et la Russie en direction de classe moyenne avec des low cost. Bon là, aujourd'hui, la situation est quand même préoccupante pour eux parce que les hôtels ont très peu de moyens de reconversion par rapport à ceux de Hanoï ou de Saigon. Ils peuvent pas proposer de location sur du long terme, par exemple. La clientèle domestique est là, mais elle peut pas complètement remplacer à l'échelle de la station le flux international.
Voilà. Mais attendez, pourquoi ? Est-ce qu'on peut pas tout simplement baisser le prix des chambres? Est-ce qu'on peut pas réorganiser par exemple les transports et faire de nouvelles liaisons intérieures pour justement amener des touristes vietnamiens sur ces lieux?
Alors, le tourisme domestique au Vietnam, il est déjà plutôt bien réparti. Et puis récemment, en juin, il y a une campagne qui a été lancée. Donc, Noé Vietnam, désolé que Vietnam, c'est-à-dire les Vietnamiens voyagent au Vietnam, lancée par le ministère des Sports, de la Culture et du Tourisme, qui a incité très clairement les Vietnamiens à faire du tourisme au Vietnam, essentiellement par des leviers promotionnels, en fait. Les acteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des parcs d'attractions doivent faire des promotions. Et ça marche. marche plutôt bien puisque les chiffres du 30 avril 1er mai, donc c'est un week-end très important au Vietnam. Le 30 avril, c'est la réunification du pays en 75, 1er mai, la fête du travail, donc une fête importante dans un pays communiste. Les chiffres cette année étaient plus importants que ceux de l'année dernière. Donc il y a une vraie envie pour les Vietnamiens de faire du tourisme. Maintenant,
Il faut préciser, je vous laisse poursuivre, Emmanuel Pével, que le Vietnam peut se targuer de ne compter aucun décès par Covid. Évidemment, c'est un élément qui rentre dans l'équation.
Tout à fait. Le Vietnam, là, est cité comme une exception aujourd'hui par un certain nombre d'observateurs internationaux, parce que d'une part, il a très tôt anticipé, hein, dès le 1er février, il a fermé ses frontières avec la Chine, aérienne et terrestre. Les enfants ne sont pas rentrés à l'école après le nouvel an lunaire, le TET. Et cette politique, elle est plutôt à souligner parce que c'est une approche à faible coût. Contrairement à son voisin coréen, le Vietnam teste peu. Il n'y a pas une politique de test massif, c'est plutôt une politique de l'isolement et de la recherche de contacts. Permis par le communisme en fait, hein, c'est-à-dire par une intrusion assez bien acceptée par les gens qui y sont habitués lorsqu'ils sont soumis à des questionnaires et aussi à des douzaines. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans le pays, et ça depuis plusieurs mois, vous êtes soumis à 12 jours d'isolement, essentiellement dans des hôtels d'État. Voilà. Donc ça joue en sa faveur et ça joue en sa faveur à l'échelle internationale parce que le Vietnam, clairement, aujourd'hui, fait partie de ces pays qui pourrait réaccueillir des touristes internationaux parce que certains pourraient considérer comme rassurante la situation actuelle. Et le Vietnam y travaille en identifiant notamment des îles qui pourraient être ouvertes au tourisme international. Je pense notamment à l'île de Phu Quoc au sud du pays, pas très loin du Cambodge.
Et on pourrait par exemple accueillir des Chinois parce que il y a un lien évidemment très fort, vous l'avez rappelé, oui. On est encore dans un régime communiste et en même temps, la Chine est directement et très concernée par le Covid. Donc,
Oui, tout à fait. C'est un peu une équation infernale. La Chine est le premier pourvoyeur de touristes internationaux au Vietnam. Ils sont très nombreux dans le pays. Par exemple, dans la baie d'Along, il y a un flux de proximité très important. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a des clusters là qui sont en train de repartir. Donc, c'est un peu l'équation infernale. Et à vrai dire, le Vietnam aujourd'hui a plutôt engagé des discussions avec le Japon, avec la Corée, avec la Chine. C'est un petit peu plus compliqué hein, pour l'instant. Ouais, tout à fait.
Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins. Dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie. Et voir la vie en bleu, tout joué sur un pari. Toute la nuit danser le calypso, dans un dancing avec vue sur l'Arnaud. Au milieu de la nuit.
Merci Benjamin pour la sélection de ce titre. Le sud de l'Italie sera peut-être pas pour cette année, mais bon, on verra. Merci beaucoup à tous nos invités, en tout cas Emmanuel Pével qui était avec nous ce matin par téléphone. Et également un grand merci à Vincent Coueffé. Je rappelle que vous avez participé à un ouvrage collectif qui sera publié très bientôt à la rentrée, Les enjeux contemporains du tourisme. Et un grand merci également à Jean-Pierre Lozato Giotta. Je rappelle que vous êtes notamment le vice-président de l'association francophone des experts et scientifiques du tourisme comme un besoin d'évasion. C'est notre série cette semaine dans Culture Monde. On la poursuivra demain. Mais pour l'heure, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table dans un très court instant.